maintenant les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Nous sommes la classe de 3e 3 du collège Pierre-Olivier Malherbe de Châteaubourg et nous participons au concours Enquête en classe qui a pour thème Migration, enracinement et déracinement. Pour participer à ce concours, nous avons eu la chance d'être financés par le conseil départemental pour accueillir deux intervenants, Morgane Soularue de la radio Canal B et Lonique, un auteur de BD. Ce projet est à l'initiative de notre professeur de français, Madame Carré, aidé par notre professeur documentaliste, Madame Dourmap. Pour mener notre enquête, nous avons noué contact avec le foyer U2A de Châteaubourg, qui nous a envoyé des dessins de jeunes mineurs isolés du foyer. Ces dessins ont pu nous aider à comprendre leur histoire, mais aussi leur goût, leur passion. En parallèle, en cours de français, nous avons effectué des lectures buissonnières. Nous avons dû lire des livres sur la thématique des migrations. Cela nous a permis de nous imprégner des histoires et d'enrichir nos connaissances sur ce sujet. À partir de ces livres, nous avons dû créer un objet qui était symbolique ou important dans l'histoire. Ces lectures nous ont permis de mieux comprendre les histoires des migrants.
De même, nous avons eu deux films. Welcome qui raconte l'histoire d'un jeune Irakien exilé en France qui veut rejoindre sa petite amie qui habite en Angleterre. Pour cela, il va devoir traverser la Manche à la nage, clandestinement. Malheureusement, il va mourir de sa tentative en se noyant dans la Manche. Et Persepolis qui raconte l'histoire d'une jeune iranienne qui veut vivre une adolescence normale, sauf que les lois de l'État islamique l'en empêchent. Elle a donc décidé de migrer en Europe où elle va avoir une adolescence normale.
Bonjour, nous sommes des élèves de 3e 3 du collège Pierre-Olivier Malherbe et on s'appelle Marine,
Léonie
et Nora.
Par groupe de 7-8 personnes, nous avons été deux mercredis de suite rencontrer de jeunes migrants. Au foyer de Châteaubourg, nous avons visité le foyer, puis nous avons fait un blind test culinaire et un blind test musical, puis nous avons fait un quiz sur le foot car c'était pendant la Coupe du Monde.
Parmi les jeunes que nous avons rencontrés, on va vous présenter le portrait de trois d'entre eux.
En commençant par Ahmad.
Ahmad est un jeune garçon de 17 ans. Il était accueillant et souriant. Il parlait bien le français, ce qui lui permettait de se faire comprendre. Il persévérait à trouver des mots en français. De plus, il traduisait à ses amis. C'est le premier à être arrivé. Il nous a donc fait la visite du foyer en français. Nous avons fait des jeux pour partager un moment ensemble, un blind test culinaire et l'autre musical. Il était souvent l'un des premiers à répondre et à avoir la bonne réponse. Il ressemblait à un jeune adulte et était très élégant avec son foulard. Il nous a fait écouter Sidhu, un rappeur pakistanais assassiné en raison de ses opinions politiques. Il aime les films bollywoodiens. Il aime aussi les films Marvel. Il aime le cricket, mais pas le football. Il étudie au lycée Jean Jaurès à Rennes en électricité. Au Pakistan, il parle le Punjabi.
Nous allons parler maintenant de Arslan.
Arslan était timide et réservé. Il ne parlait pas français. Il aime les films Marvel, surtout Spider-Man. Son prénom veut dire lion, homme brave.
Je vais maintenant présenter Abedine. Abedine était discret, il n'est pas resté longtemps. Il portait un ensemble de jogging gris. Il aime le groupe de musique albanais OTR et le chanteur Lanex. Sa spécialité culinaire albanaise qu'il préfère est le birek, une tourte aux épinards. Son prénom signifie adorateur.
Bonjour. Ah, mais c'est Arslan.
Oui,
bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis bien revenu, bravo. Alors, qui va faire la visite?
La visite.
Ils sont timides pour la visite.
Ah, ouais.
La visite de quoi?
Bah, du foyer. Bonjour.
Parce que oui, Ziola, il était là la semaine dernière déjà.
Ouais. Ils vont vous faire la visite du coup, okay. Du foyer. Vous pouvez enlever vos manteaux et les poser là. Hein.
On y va.
On y va.
On y va. C'est un bureau pour toutes les éduques. Et deux éducatrices ici pour les papiers, passeports et un autre.
Allez-y, vous pouvez rentrer.
Juste deux éducatrices, elles travaillent ici, Emily et Elodie. Elles travaillent pour les papiers, pour les cartes de séjour, titre de voyage.
On montre ça aussi.
Tu veux montrer ça là?
C'est un pour manger. Ouais. Quand on a, je sais pas, j'étais comment.
Une réserve alimentaire.
Ouais, on a une réserve alimentaire pour prendre les choses et pour préparer, pour cuisiner. Ça, c'est un cuisine. Et on a préparé les choses ici. Et ça, c'est la salle de cuisine.
Salle de manger.
Salle de manger. On a les deux frigos.
Ah,
on a
fait un deux gâteau. Frigos ouais. Ah ouais.
Et c'est chambre parmessée.
Ah, la pharmacie.
La pharmacie. pour ramasser un autre.
Cécile.
J'ai travaillé avec monsieur local et cherché un stage et un stage d'apprentissage et travaillé pour nous. Et il a travaillé juste mercredi, après-midi.
C'est tous les mardis.
Tous les mardis de l'infirmière,
Infirmière. Ça, c'est la salle de télé et la salle pour manger.
Ça, les chambres pour les quelqu'un. Et les, chaque chambre, 2 personnes. Et là-haut, c'est chambre et juste salle de télé.
Allez-y, installez-vous. Est-ce qu'on va faire des équipes? Venez, vous qui êtes des élèves un peu partout, là. Venez. Allez, Joanne, c'est bien.
Mais non,
voilà, tu laisses la place à Lénie, tu viens là.
Madame,
tu laisses la place à quelqu'un. Voilà, Viola, vas-y, choisis ta place. Viola, tu peux aller sur la banquette.
Ouais, voilà,
tu reviens là. Bon, on va peut-être commencer à se présenter. De toute façon, Viola, on le connaît.
Oui, il pourra le présenter.
Voilà, il pourra se présenter après.
Moi, je m'appelle Lénie. J'ai 14 ans.
Moi, je m'appelle Arwen et j'ai 14 ans. Moi, pareil, je m'appelle Tom, j'ai 14 ans et je suis en 3e.
Moi, je m'appelle Émilie et j'ai 14 ans.
Moi, je m'appelle Chiara et j'ai 14 ans.
Moi, je m'appelle Manon et j'ai 15 ans.
Je m'appelle Camille et j'ai 15 ans.
Je m'appelle Joanne et j'ai 14 ans.
Moi, je m'appelle Omar Gol et j'ai 16 ans.
Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens?
Je viens d'Afghanistan.
Donc tu as fait le même parcours que Ziola, plus de 8000 km.
Ouais, j'ai passé au Iran, après Turquie et après Italie.
Alors les élèves, ça doit vous rappeler
un livre.
Mm-hmm. Quel livre là, raconte un peu
L'Odyssée d'Hakim, qui c'est qui l'a lu un petit peu qui a...
Et en fait, dans la BD, on explique le trajet qu'il fait en fait à travers le Moyen-Orient, puis l'Italie, enfin puis l'Europe en fait. Donc il passe aussi en Syrie, en Turquie. Après lui passe en Grèce, Macédoine. Oui. Et c'est Ziola la semaine dernière qui nous a dit qu'il avait fait ce même trajet.
Ce même trajet.
On va lui demander tout à l'heure.
En fait, tous les élèves ont travaillé sur des récits d'exil. Et c'est les objets qu'ils ont fabriqués après avoir lu les livres.
Moi, c'est une maquette.
Et là, il y a des chars et des immeubles pour représenter la guerre.
Et t'avais lu quel livre déjà?
Aïtam, une jeunesse syrienne. Et en fait, c'est une autobiographie.
Donc ils ont lu plein de formats différents, en fait. Ils ont lu des romans, oui, si, sous format roman autobiographique. Donc ça, c'est un Syrien qu'on a rencontré, qui vit maintenant en France et qui nous a raconté, il venait d'Alep. Et donc il a quitté son pays aussi. C'était un ancien professeur de français dans son pays. Donc c'était facile pour lui de s'exprimer, plus facile.
Et on a celui-ci, ce petit livre, La guerre si ça nous arrivait, qui est une dystopie.
C'est l'envers d'une société idéale, c'est le contraire en fait. Et là, on imagine dans ce tout petit ouvrage qu'il y a la guerre partout en Europe. Et que du coup, les migrants, ça va être nous les Européens qui allons aller vers les pays du Sud. En fait, ça parle à la deuxième personne. Donc ça nous adresse directement. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu devais quitter le pays? Tu te retrouves dans un pays où on ne parle pas ta langue. Tu n'as plus de travail. Tu dois tout reconstruire. Et c'est assez efficace comme petit livre. C'est tout petit.
Oui, c'est un livre coup de poing.
Vraiment, voilà, il fait son effet. Donc ça aussi, on l'a étudié sous forme d'extrait en classe.
Et toi, est-ce que tu lis des BD un peu au lycée? Tu vas au lycée?
Ouais.
Tu vas dans quel lycée?
Je vais au lycée à Rennes. Le lycée, il s'appelle Vector et Lembache.
Et tu vas au CDI pour emprunter des BD, lire des BD?
Oui, mais un peu.
Un peu?
Ouais. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de langues pour regarder de télé. Quand j'ai été à l'hôtel, j'ai été 4 mois à l'hôtel. Moi, je regardais tous les jours le télé. Mais moi, j'ai appris un petit peu français. Il y a 9 mois que je suis en France.
Ah, tu parles bien.
Ouais, même oui, pas.
Bravo.
Et à Victor Hélène Bache, t'es en quelle classe?
Emile Diès, pour apprendre le français.
En fait, c'est une mission de lutte contre le décrochage scolaire. C'est pas tout à fait la même chose que l'UPE2A, mais c'est à peu près similaire, ouais. Parce que toi, t'as été en classe en Afghanistan?
Moi, je suis parti 3 ans à l'école.
Ouais, parce qu'en fait, il n'a pas fait beaucoup d'école au pays, du coup, c'est pour ça qu'il était dans cette formation-là.
Et quel film tu as bien aimé regarder?
Moi, j'ai vu le film Avatar au cinéma.
En français ?
Ouais.
D'accord.
Et comment tu fais tous les matins pour aller au lycée ?
Je prends le train et après je prends le métro et je vais au lycée.
Je m'appelle Zaola, je viens d'Afghanistan, j'ai 18 ans, je travaille sur Pérou.
De Châteaubourg ?
Ah, oui.
Alors tu te présentes ?
Je m'appelle Sylvain, je suis afghan.
Sabaoun ?
Oui.
C'est comme ça qu'on prononce,
oui.
D'accord.
Sabaoun.
Sabaoun.
Et tu viens ?
Je viens d'Afghanistan, j'ai 18 ans, j'habite à Châteaubourg.
Très bien, parfait. Prononciation ? Parfait.
Bonjour.
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 Installe-toi.
Tu peux t'asseoir là.
Ouais, je vais. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, te présenter?
Oui, je m'appelle Ousmane.
Tu t'appelles?
Ousmane Gan.
Ousmane, avec un E?
Ouais.
Et tu peux nous dire ton âge, d'où tu viens?
Ouais, 2007.
Il a 15 ans. 15 ou 16 ans, c'est
pas 15 ans, d'accord. Et tu viens de quel pays?
Guinée-Conakry. La Guinée.
Guinée-Conakry.
Oui.
Allez, alors on fait deux équipes du coup.
Bah deux équipes.
Allez, Ziola, c'est l'équipe Avatar, donc Omar Ghoul. Et toi Ziola, tu donnerais quel nom à ton équipe? Bon alors, foot, et équipe foot. C'est parti. Alors attention, je rappelle les règles, on lève bien la main quand même.
Ouais, on donne hein? pas le titre.
N'est-ce pas Léni? On ne se lève pas. On ne se lève pas. Bon, et je vous préviens, c'est pas forcément des trucs dans vos playlists. Hein. J'ai essayé de varier un petit peu.
Ah, musique.
Alors.
Ah, et après, on va manger, ça inquiète.
Qui connaît ça?
On peut mettre un peu plus fort.
Morgane, je sais, que tu connais. Ah, non, mais c'est pas mal déjà. MTM, bravo! Bravo, Joanne, elle a de la culture musicale!
Un point
pour Avatar! Allez,
bon, allez, on continue.
Bon, on va quand même leur mettre des trucs.
C'était côté foot.
Allez, Chiara.
Oui.
Un point pour l'équipe foot. Attention. Alors, peut-être que. Attention. Ahmad, vas-y.
C'est un musique punjabi.
Oui, et c'est
l'artiste.
C'est...
Ça commence avec S.
Oui.
Samoud, je sais pas quoi.
Sidou. Oui, bravo. Un point pour Avatar, bravo. C'est Ahmad qui nous a fait connaître la semaine dernière. Donc, alors, on continue. Celle-ci, peut-être.
Oui.
Oui.
C'est s'appelle Could You Be Love.
Bien.
Oui.
Bravo. Could You Be Love de Bob Marley. Bravo.
Attention, avant.
Elle est pointue. Il a une bonne culture au Margot là en blind test. Bravo. Allez, un autre.
Mais après, Viola, quand il va falloir manger, il va être là.
Michael Jackson, c'est petit.
On a une fan là.
Michael Jackson, vous connaissez? Michael Jackson.
Michael Jackson.
Ouais. Écoute la chemise. Michael Jackson.
Okay. Voilà.
Bon. Ah, c'est serré. Équipe Avatar, 5 points. Équipe foot, 3 points. Et attention, t'étais vainqueur Ziola la semaine dernière.
Oui, mais il s'agissait de manger.
Et du coup, alors les élèves, est-ce que vous avez des questions à poser aux camarades pour clore cette petite visite, parce que ça va bientôt être l'heure?
Comment s'est passée votre arrivée en France?
Elle a dit déjà Ziola.
Ziola, t'as dit quoi toi?
J'ai dit c'est très dur.
C'est dur, ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus dur?
Parce que problème police présent et comme mort, bateau et plage, beaucoup.
Beaucoup de choses dans la tête qui restent.
Oui.
Ouais.
Un petit voiture, 10 personnes dedans, ça. Ouais. Beaucoup problème pour
ça. Ouais, c'est dur. Parce que c'est, tu es arrivé en Méditerranée, par la côte méditerranéenne, la mer Méditerranée.
Oui.
Oui. D'accord. À quelle ville tu as abordé? La ville, tu te rappelles la ville où tu es arrivé?
France.
En France, oui.
Nice.
Nice, d'accord.
Italie, après Nice. En Italie.
En Italie, ouais.
Après Nice, Paris, Châteaubourg. Ouais. La France, c'est la paix, la sécurité, mais c'est aussi la morsure du froid et la solitude. L'Eldorado n'était pas si beau, non, papa nous mentait. Si je reste ici, c'est pas pour rapper, mais piller les études. Les années passent et les feuilles tombent à tous les automnes. Et moi, je m'étonne d'être encore ici, voyez les consonnes. Ma vie s'écrit sur des bouts de papier, je chante un effredonne. Un blues qui ne me quitte plus depuis les bancs d'école. Et ouais.
Est-ce que la langue française, c'est difficile aussi à apprendre? C'est très difficile. Mais vous vous débrouillez bien. Hein. Une autre question? Vas-y, Arwen.
Vas-y, Arwen.
Allez.
Connaissez-vous des poètes, des artistes ou des acteurs français?
Oui.
Moi, j'ai... Comment dire? Quand je pose... C'est pas comment dire.
Tiens.
Booba, le rappeur. Booba, vous connaissez?
Alors Ousmane, bah oui. C'est Booba, d'accord.
Ok. Et Black, t'en connais d'autres des...
Black M.
Black M, ouais. Mm. Vas-y, Joanne.
Est-ce que vous pensez un jour devoir venir en France?
Non.
Pour quitter votre pays d'origine?
Non. Non.
Préférez-vous la nourriture française ou celle de votre ancien pays?
Alors.
La culture française ou la française?
Tous les deux.
Les deux?
Ouais.
Tous les deux. Ouais. D'accord, il y a du bon dans les deux, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà une idée de métier que vous souhaiteriez, que vous voudriez faire un métier pour plus tard? Est-ce que déjà vous avez cette envie-là?
Vas-y, là, il peut répondre.
Alors, parce qu'il travaille, oui.
J'aime bien, ça s'appelle comment? Oh. Mécanicien, très bon, il n'y a pas d'autre. Moi déjà, je travaille à Afghanistan un petit peu, je connais un petit peu. Mécanicien, très bon, il n'y a pas...
D'accord. Tu travaillais déjà en Afghanistan?
Oui.
Mécanicien, d'accord.
Oui.
Donc tu es passionné de voiture, de...
Voiture ou...
Moto?
Scooter.
Scooter? Ah, d'accord.
J'ai choisi culture.
Agriculture?
Oui, ouais. Parce qu'à Rennes, il n'y a pas grand-usine. Parce que j'ai changé de métier.
T'as changé d'idée de métier, c'est ça?
Oui.
Avant, tu voulais faire quoi?
Et déjà, je travaillais la Turquie, styliste. La pantalon. La
en Turquie, aussi. Tu travaillais, d'accord.
Oui.
Dans la mode.
Oui.
Ah, styliste, c'est bien ce que j'ai entendu.
Oui, styliste.
Donc, t'es intéressé par les vêtements, tout ça?
Oui.
D'accord. Et tu dessines les vêtements?
Oui. Tu es à quel lycée, Ousmane?
Collège.
Ah, t'es au collège?
Ouais.
Quel collège?
Saint-Anne.
Ah, Saint-Anne.
Ah,
Rennes.
Ouais,
ah, d'accord.
Ok. Omar, il aurait juste une petite question à vous poser.
Ouais.
Donc je lis ce qu'il a marqué. Hein.
C'est qui pose la question?
C'est Omar.
Ouais.
Il a dit, est-ce que tu aimes les gens comme nous qui viennent dans ton pays?
Bah oui, oui.
Ça me paraît logique.
On peut pas dire qu'on n'aime pas quelqu'un si on le connaît pas.
Ouais, c'est une bonne réponse. Ça. Et pourquoi ça te semble logique?
Ouais, Chiara, pourquoi ça te semble logique?
Bah pourquoi est-ce qu'on les aimerait pas?
Des gens comme nous.
Ouais, ça permet de rencontrer différentes cultures.
En fait, je pense que la meilleure réponse, c'est si on est tous là, je pense que vraiment, ça te montre que, en fait, justement, on est curieux, on a envie d'échanger. Et au contraire, on essaie de lutter contre tous les préjugés, les a priori, les gens qui... Voilà, qui sont un peu fermés, ben non, justement, on essaie d'ouvrir. Moi, je suis contente d'ouvrir au collège, aux collégiens. Et je suis contente que vous vous rencontriez parce que vous habitez le même village. Vous êtes, le collège, il est à 300 mètres, 500 mètres. Et en fait, vous ne vous connaissez pas et c'est dommage. Et je trouve que ce serait super si on pouvait justement imaginer des petits événements. Ça peut être, je sais pas, un battle de rap, ça peut être un match de basket, un match de foot, enfin, tu vois. Et nous, on aimerait raconter votre histoire, en fait. Et on aimerait qu'il y ait une exposition, et on a invité Viola, qui aime dessiner, à dessiner dans l'atelier avec l'illustrateur. C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Mais non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. En tout cas, c'est super d'être venu. Et même si parfois c'est dur de parler, on se comprend quand même, en fait. C'est ça qui est le plus important, genre.
Qui déraciné, qui d'Africain dans la cour de récré. Mineur isolé, ça jouait les durs, ça parlait de raquettes et de crans d'arrêt. Je venais de là où souffler les obus et rouler les blindés, ok, ok. Ma vie c'est d'être un banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dans ma belle Lisbonne, le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones, ouais. Ma vie c'est d'être un banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dans ma belle Lisbonne, le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Et puis je prends racine dans le...
Pause musicale dans l'émission des 3e 3 du collège Pierre-Olivier Malherbe de Châteaubourg sur Canal B. On écoute Cool Frénésie, les Rita Mitsuko. Frénésie, les Rita Mitsuko sur Canal B. Retour au collège Pierre-Olivier Malherbe de Châteaubourg avec la classe de 3e 3.
Bonjour, nous sommes Jade et Manon de la classe 3e 3 et nous allons interviewer des éducatrices du foyer de Châteaubourg. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, moi je suis Romane, je suis éducatrice spécialisée au foyer.
Bonjour, moi c'est Lucie, je suis aussi éducatrice au foyer de Châteaubourg depuis mars 2020.
Pourriez-vous nous parler du foyer où vous travaillez ? C'est un foyer qui accueille 20 jeunes sur le collectif et on a 10 jeunes qui sont en appartement. Donc ça va de l'accueil va de 15 à 21 ans.
C'est ça. Du coup, c'est un foyer qui a ouvert le 15 janvier 2020. On a eu un agrément pour avoir plus de places. Donc aujourd'hui, on a un agrément pour 30 jeunes Et voilà, donc c'est des jeunes étrangers, mineurs. On a pas mal de nationalités, du coup, qu'on accueille entre des Afghans, des Indiens, des Pakistanais, tout ce qui est un petit peu Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Mali, Tunisie, Maroc, enfin, on a quand même une belle carte. Donc, l'objectif du foyer, c'est de permettre l'intégration de ces jeunes dans la vie en France, dans la scolarité, l'insertion professionnelle et les codes sociaux.
Quel est votre rôle dans l'association ?
Du coup, ça sera plus au foyer, parce que dans l'association, il y a beaucoup de foyers de la protection de l'enfance. Nous, on s'occupe de tout ce qui est la partie du quotidien, donc la scolarisation, qui reprenne un rythme, donc se lever le matin pour aller à l'école, la recherche de formation, de travail, et puis bah, après, tout ce qui est apprentissage des codes sociaux. Et après, bah, c'est beaucoup d'échanges, de partage. Après, on travaille sur tout ce qui est l'ouverture de droits, donc la CMU, la CAF et tout ça.
C'est ça. Et puis, bah, du coup, nous, en termes de présence, en termes de roulement, du coup, il y a un éducateur le matin qui travaille jusqu'à 15h et il y a deux éducateurs le soir. Donc voilà, on participe à tous les aspects de la vie quotidienne, le lever, les repas. On a une maîtresse de maison qui gère l'intendance pour faire fonctionner le foyer. Donc voilà, mes éducateurs, on est là voilà, plus sur les démarches et le quotidien.
À quel moment de votre vie avez-vous eu l'envie d'aider les migrants ?
Du coup, moi, j'ai été diplômée en 2019 et ma première expérience était avec les migrants et j'ai eu un coup de cœur pour le public, en fait, pour l'accompagnement proposé auprès de ces personnes-là et du coup, j'ai continué jusqu'à maintenant.
Et ben moi, je suis diplômée depuis juillet 2021. C'est ma première expérience en tant qu'éducatrice spécialisée. Et bah en fait, c'est un public qui est très riche, où on apprend beaucoup d'eux par rapport à leur parcours, à la culture et tout ça. Donc c'est vraiment très enrichissant. Donc c'est vraiment un métier fatigant mais passionnant.
Avez-vous appris une autre langue pour communiquer avec ces jeunes hommes ?
Je vais laisser Romane répondre à la question.
Moi, je ne parle pas anglais. Du coup, ils n'ont pas le choix que de parler français avec moi. Sinon, bah, Google Traduction. Après, on apprend quelques petits mots, mais franchement, non. Moi, je n'ai pas appris de langue, en tout cas.
Oui, on n'a pas appris de langue exprès pour le travail, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'anglais. Quand à l'arrivée, les jeunes ne parlent pas forcément français, et même l'anglais est assez rudimentaire. Donc, on parle en anglais, mais sinon, Google Traduction ou la communication non verbale. Voilà.
Que deviennent les jeunes migrants une fois majeurs ? Où vont-ils ? Que deviennent-ils ?
Du coup, on a des jeunes majeurs pour qui ça se passe très bien, qui vont trouver leur voie dans leur insertion professionnelle et donc qui passent les diplômes. Généralement, c'est des jeunes qui se tournent vers les CAP parce que le niveau de français ne permet pas de pouvoir accéder à des études supérieures. Mais on en a quand même, on en a eu quelques-uns. Donc la plupart, en fait, passent sur des appartements semi-autonomes. Nous, on a un foyer pour mineurs qui est pour mineurs non autonomes, en fait. Et on les oriente vers des dispositifs pour semi-autonomes pour qu'ils accèdent à des appartements avec des éducateurs aussi, mais un peu moins présents que nous. Et on a des jeunes pour qui, bah, si l'intégration en France ne fonctionne pas comme on le voudrait, en tout cas ou comme la loi française le veut, eh ben, ils peuvent se retrouver à quitter le foyer en fait, un peu du jour au lendemain, sans forcément de projet derrière, quoi.
La protection de l'enfance, c'est quand même très complexe, parce que du coup, on prend en charge tous les mineurs jusqu'à 18 ans. À partir de 18 ans, ils signent un contrat jeune majeur, donc qui est renouvelable environ. On leur donne 6 à 8 mois. Et après, on retourne en refaisant un rapport et le jeune refait une demande pour renouveler ce contrat. Mais c'est pas facile parce que les objectifs sont quand même assez élevés. Et que ben, des jeunes migrants comme ça qui arrivent, il faut qu'ils soient autonomes très rapidement. Et c'est des jeunes qui n'ont pas eu forcément d'enfance, et donc arriver au foyer, c'est un peu, on va dire, la crise d'adolescence. Donc ça va un peu dans tous les sens, donc c'est là où il faut travailler plus sur l'autonomie, on leur demande quand même beaucoup.
Et quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre ?
Eh bien ça dépend de chaque jeune, les objectifs on les fait avec eux. Bah, déjà à 18 ans, ils doivent commencer à être autonomes, et après... S'ils sont scolarisés, c'est continuer la scolarisation et trouver du travail.
Et sinon, bah, c'est l'insertion professionnelle, parce qu'à 21 ans, il faut qu'ils soient autonomes financièrement, et c'est pas facile.
C'est ça, et on a aussi l'objectif, on a certains qui arrivent à 18 ans et qui n'ont pas forcément compris ou terminé leur démarche de régularisation en France. Donc ça, c'est aussi un objectif, que le jeune sache comprendre ses démarches tout seul, parce que souvent, c'est des démarches compliquées et longues, et quand ils vont se retrouver tout seuls, bah voilà, il n'y aura pas d'éducateur pour leur expliquer. Donc ça, c'est un des objectifs. On peut avoir des objectifs aussi par rapport à la santé, savoir prendre des rendez-vous, être autonome là-dessus. Et c'est vrai que quand ils sont majeurs, on a plus des objectifs, faire des ouvertures de droits communs, voilà, donc la CAF, passer le permis de conduire, tout ce qui peut être nécessaire en fait à la vie en France et à l'accessibilité à l'emploi, quoi.
Est-ce qu'il existe toujours ces techniques pour donner l'âge d'un jeune avec le dentiste et l'ostéo? Enfin, moi j'avais entendu parler du dentiste et de l'ostéo. Le dentiste qui arrive à donner l'âge avec les dents.
En fait, on avait eu une intervention d'une avocate, si je ne me trompe pas, dans le droit des étrangers, qui expliquait que dans certains départements, ils font pour évaluer la minorité les tests osseux. Et mais tous les départements n'acceptent pas de faire ça, et l'Ille-et-Vilaine n'en fait pas partie. Donc en fait, l'évaluation de la minorité se fait à la mission Emena, à Rennes, du coup, où ils sont amenés directement quand ils arrivent sur Rennes. En fait, même la gendarmerie les oriente là-bas. Et c'est en fonction de leur récit, en fait, de ce qu'ils vont raconter, de leur façon de parler, de leur physique, de les mots qu'ils emploient, tout ça, enfin, qui vont être évalués mineurs ou pas. En fait, il disait, l'avocate disait qu'il peut y avoir, ils peuvent faire une erreur de 2 ans, c'est ce que j'ai compris, mais voilà, entre 17 et 19, déjà, ça change tout pour une prise en charge, donc c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal qu'en Ille-et-Vilaine, ce soit pas comme ça. Après, les autres départements, il y en a qui le font.
Y a-t-il beaucoup d'associations de ce genre en France ?
L'aide sociale en enfance, il y en a partout. Des foyers pour MNA, il y en a de plus en plus quand même. Mais ouais, l'aide sociale à l'enfance, ça prend pas en charge que du coup les mineurs non accompagnés. Ça prend en charge tout, bah, les Français aussi, qui peuvent pas rester chez eux. Mais oui, il y a beaucoup dans le social, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'associations comme ça. Après, bah, comme disait Lucie, tous les départements ne fonctionnent pas pareil. Après, maintenant, ça commence. Mais en tout cas, en Bretagne, dans le Morbihan, déjà, ils ne prennent pas en charge les enfants après 18 ans. Donc, il n'y a pas de contrat jeune majeur. Donc déjà, il y a des différences entre les départements. Il y a une nouvelle loi qui est passée là. Et du coup, il y aura l'obligation de faire signer des contrats jeunes majeurs.
Ille-et-Vilaine, c'est assez réputé pour faire un bon accueil aux migrants. Et c'est vrai qu'en fait, il y a eu une commande des départements, je dirais, parce que forcément, le nombre de migrants augmente. Donc en fait, les U2A, donc comme nous, on est l'unité d'accueil d'accompagnement, c'est vraiment des services spécifiques MNA. Là où sur d'autres services, ça peut être mélangé à des Brétiliens, à des Français, là, c'est spécifique MNA, et il va y en avoir de plus en plus qui vont ouvrir, parce qu'il y a de plus en plus de demandes dans ce sens-là, quoi. Donc là, nous, depuis qu'on a ouvert, il y a déjà l'IFRE qui a ouvert en plus, il y en a un Cesson qui a ouvert aussi, et il y en a, enfin, ça va de plus en plus.
Ouais. Et puis là, en 2024, normalement, il n'y aura plus le droit de mettre un mineur à l'hôtel. Donc là, les foyers, ils vont devoir s'agrandir, parce que vu le nombre de jeunes qui attendent à l'hôtel, je pense que, enfin, il n'y a pas de place pour tout le monde, non, en fait. Donc là, va falloir retrouver des places.
Qu'est-ce qui vous touche le plus dans la situation de ces jeunes ?
Il y a plein de choses, parce que déjà, nous, on rigole, parce qu'on dit que c'est des gamins, c'est des bébés. Enfin, voilà, comme disait Roman, quand ils arrivent, en fait, au foyer, c'est presque leur premier endroit où ils peuvent se poser. Et du coup, il y a des comportements un peu enfantins qui reviennent. Donc, ça, c'est, moi, je trouve ça marrant, je trouve ça touchant, parce qu'ils déposent ça auprès de nous, parce qu'ils sont loin de leur famille. Et c'est vrai que les récits
sont pas faciles
À lire, à entendre. Et notre objectif, c'est de les faire avancer. On essaye de pas remuer, ressasser le passé. Mais bon, on voit bien les traumatismes, en fait, auprès des jeunes. Et ça, c'est compliqué, quoi.
C'est ça. On est là sur le quotidien, donc en fait, on est là tout le temps. Donc quand ça va pas, ben, on le voit, on le sent. Et ils ont besoin d'extérioriser, donc les personnes à qui ils déversent, c'est à nous. Donc il faut être aussi blindé pour écouter les récits, mais aussi pour les pousser
à parler. Et du coup, on peut passer des heures avec eux en essayant de leur faire cracher un petit truc qui va pas. Alors des fois, c'est rien du tout. Et des fois, on va se retrouver avec un récit de vie qui est hyper dur et on pensait pas avoir ça à ce moment-là. Mais après, bah, c'est tout le quotidien. Il faut pas oublier que ce sont des adolescents. Donc, eh ben, ils ont leur petit caractère. Puis, arrivé ici, comme ils se posent, eh ben, le caractère ressort. Comme à la maison.
C'est
hein.
Exactement ça.
Ça fait pas le ménage, ça range rien du tout. Puis, ça te crie dessus, ça te râle dessus parce qu'ils sont pas contents, parce que les choses ne vont pas assez vite. Parce que, ben, en France, une démarche, ça prend.
6 mois.
Voilà. Et que pour eux, ils voudraient que tout arrive tout de suite. Donc, mais on passe de très bons moments. On dit souvent qu'ils sont quand même attachants.
Ouais.
Parce qu'ils sont très attachants, mine de rien, mais très, très, très chiants.
Et on a l'aspect aussi un peu santé, justement, dû à ces traumatismes. C'est des jeunes qui ne vont pas forcément vers des psychologues. On a beaucoup, beaucoup de mal à leur faire adhérer à ce type d'accompagnement parce que dans les autres pays, les psychologues, c'est pour les fous. Et c'est vrai que là, par exemple, on a pas mal de cas de jeunes malades. Et ça fait de la peine quand on apprend qu'ils ont des maladies et des choses comme ça. Parce que forcément, il y a des pays plus à risque que d'autres. Et du coup, ça fait aussi un isolement. Enfin voilà, on repart sur des trucs pas cool pour eux. Donc voilà, on essaye de rester positif quand même toute la journée pour eux aussi. Parce que c'est un peu dur. Mais oui, c'est vrai qu'on se marre bien quand même.
Ont-ils encore des contacts avec leur famille ?
Ça dépend. Ça dépend lesquels. Je dirais que quand le départ est volontaire et prévu avec la famille, ouais, ils ont encore des contacts. Il y en a certains qui ont été amenés jusqu'ici et la famille est repartie. Donc là, c'est plus compliqué. Il faut accepter, faire le deuil de tout ça. Et après, les Afghans, bah, ils partent. Donc c'est des trajets qui sont d'environ un an et demi, 2 ans, hein, je dirais,
ouais.
Si c'est pas plus. Et du coup, entre le moment où ils partent et le moment où ils arrivent, la famille, des fois, il y a eu les talibans qui sont arrivés. Donc ils sont partis se réfugier en campagne. Et là, du coup, il n'y a plus de contact avec la famille. Et c'est assez dur, hein.
Puis souvent sur le trajet aussi, par exemple, donc ils partent avec des papiers. Parfois, et ils payent des passeurs en fait qui les font arriver sur, passer d'un pays à un autre, arriver sur le territoire français. Et souvent, le passeur garde tout. Donc même s'ils avaient même un téléphone, des choses comme ça, ils gardent tout. Et du coup, plus de contact. Donc après, faut retrouver la famille, tout ça, sachant que y en a qui ont vraiment pas de nouvelles. Donc là, c'est difficile. Et en fait, nous, en France, il y a une condition pour qu'ils puissent accéder au papier, c'est que auprès de la préfecture, ils doivent pas évoquer qu'ils ont contact avec leur famille. Parce qu'ils sont mineurs isolés sur le territoire français, et en fait c'est vrai, mais la majorité n'ont pas trop de contact avec leur famille. Mais pour ceux qui en ont, c'est pas forcément bien vu de le dire, parce qu'ils pourraient poser des questions, pourquoi ta famille t'envoie pas de l'argent pour que tu rentres, pourquoi ils viennent pas te chercher, enfin voilà. Bon, la préfecture, on va pas juger, toujours pareil.
A contrario, tout ce qui est quand ils ont obtenu le droit d'asile, du coup, ils peuvent faire la réunification familiale. Et là, par contre, on leur demande de justifier d'un contact avec la famille régulier, des photos, des captures d'écran, des conversations, des appels. Donc, ça dépend.
Ça dépend de la demande. Ouais, c'est ça, la demande d'asile. Donc, c'est à peu près autorisé, la demande de titre de séjour, les moins, quoi, sur cet aspect-là.
Comment ressentent-ils l'éloignement avec leurs proches ?
C'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est des gars qui sont hyper courageux et qui ont je pense qu'ils ont tous des frères et sœurs, plus petits ou plus grands. Ils ont tous une mission, entre guillemets, en France, de ramener de l'argent pour la famille. Ils ont cette petite pression-là et tout ça. La famille, c'est la famille, quoi. Et on voit bien que par rapport à moi, ça, c'est un truc qui m'a plus surprise quand je suis devenue éducatrice ici, c'est que ça a vraiment... Peut-être par rapport à la France, une importance beaucoup plus... Enfin, il y a une loyauté, en tout cas, envers la famille qui est même pas discutable, quoi. Même nous, des fois, quand on essaye de les raisonner, parce que, il faut pas qu'ils se mettent dans des embrouilles pour donner de l'argent à leur famille, parce qu'il faut qu'eux, ici, vivent bien. Mais c'est un peu compliqué pour eux, quand même, de répondre à tout ça. Et, ils savent nous le dire des fois qu'ils ont de la pression, mais en même temps, bah, c'est maman, quoi, c'est papa, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas dire non, ils ont besoin de moi. Donc c'est très compliqué, ils sont beaucoup en manque de... Nous, on veut pas être leur maman, et on essaye de pas jouer des transferts un peu comme ça sur certains jeunes qui peuvent être en manque et qui peuvent faire un transfert, quoi.
Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître.
Bonjour, je m'appelle Lenny, je suis en 3e au collège Pierre-Olivier Malherbe de Châteaubourg. Dans notre classe, nous sommes 28 et parmi nous, 8 élèves sont de parents ou grands-parents qui ont vécu une migration depuis l'Algérie, le Portugal, le Mali et d'autres pays encore. Une élève a vécu l'expérience d'être étrangère dans un autre pays. 8 élèves sur 28, c'est presque un tiers. Ils et elles nous racontent ce qu'ils et elles savent de leur histoire familiale.
Entre 1954 et 1962, la guerre d'Algérie oppose les indépendantistes algériens aux soldats français. L'Algérie étant une colonie française, certains réclament la décolonisation du pays. Très vite éclate un conflit armé. Les civils se retrouvent donc oppressés dans l'affrontement. L'État français lance alors un plan de rapatriement. Entre 1962 et 1965, ce sont près d'1 million de Français d'Algérie qui débarquent en France métropolitaine. Mes grands-parents en font partie. Ils embarquent chacun dans un bateau entassé avec les autres réfugiés. Ils traversent la Méditerranée. Ma grand-mère a 14 ans, mon grand-père en a 23. Lorsqu'ils accostent dans le sud de la France, ils sont placés dans des camps, ils vivent dans des tentes, les qualités d'hygiène sont déplorables. Ils multiplient les voyages, puis finissent par arriver à Bourg-Lastic, un petit village près de Clermont-Ferrand. Dans ce 4e et dernier camp, ils y passent 3 longues années, puis tombent amoureux. Mon arrière-grand-père finit par acheter une maison à Saint-Laurent-de-la-Cabrice dans l'Aude.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis en 3e au collège Pierre-Olivier Malherbe à Châteaubourg. J'ai des origines espagnoles. Je suis née en Espagne d'une mère espagnole et d'un père français. Je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans et demi. J'ai commencé la primaire en France. Je me suis sentie un peu à l'écart au début parce que je parlais pas du tout la langue française. Je parlais espagnol avec mes parents. Du coup, à l'école, c'était compliqué de me faire des amis. Après, je me suis vite intégrée parce que j'ai quand même bien parlé. Et j'ai grandi ici en France et maintenant, je maîtrise bien la langue française. Je me suis fait des amis. Et j'arrive à m'intégrer complètement au groupe. Il y a eu une grande crise économique, et en Espagne particulièrement. Et du coup, on a été obligé de quitter le pays parce que mes parents n'avaient plus de métier stable, avec des revenus corrects pour pouvoir vivre en Espagne. Je parle couramment français et espagnol. Et du coup, je me dis que si pour moi ça a été compliqué de m'intégrer, pour eux, ça doit être encore plus compliqué parce qu'ils viennent de l'autre bout du monde. Moi encore, c'est à côté, la France et l'Espagne. Mais pour eux, ça doit être vraiment très compliqué.
Bonjour, je m'appelle Chiara da Silva Carrega, je suis élève de 3e au collège Pierre-Olivier Malherbe à Châteaubourg et je vais vous raconter l'histoire de la famille de mon papa. Mes grands-parents sont nés au Portugal. Ils y ont fui ce pays à cause de la dictature. Ils sont retournés en France, c'est là où ils ont eu mon père. Quelques années plus tard, dans les années 75, ils sont retournés au Portugal vers la fin de la dictature. Mon père a grandi au Portugal, mais cependant, pendant plusieurs années, il retournait en France. En général, c'était pendant l'été. Il y a rencontré ma mère, et depuis, il est resté en France. Donc mon père est d'origine portugaise. Mais il parle également le français.
Ton papa t'a raconté que ça avait été quand même compliqué pour lui, une certaine partie de sa scolarité en France, parce qu'il parlait pas bien le français.
Oui, c'est ça. Il a eu du mal un peu à apprendre au début, parce que même ses parents eux-mêmes, eux aussi, ils avaient également du mal à apprendre le français. C'est une adaptation difficile.
Et est-ce que tu penses que l'histoire de la famille de ton papa, te rend plus capable de comprendre les migrations d'aujourd'hui?
Je comprends parce que je sais que mon père, il a vécu des choses difficiles, même sa famille. Mais même de moi, de nature, je comprends les autres. Donc, les deux, je dirais. Il y en a certains aussi qui oublient que même eux-mêmes ne sont pas 100% français. On a tous des origines, même des origines cachées, et que ce serait vraiment important de le rappeler parce que certains ont tendance à l'oublier.
L'exil sur mon père. Tout d'abord, mon père obtient une bourse après son baccalauréat pour aller étudier en Algérie dans la filière électronique. En Algérie, il est accueilli par un oncle qui est ambassadeur du Mali à Alger. Celui-ci va lui conseiller de partir à Constantine. Quand il est arrivé à Constantine, il fallait s'adapter car quasiment la moitié des cours étaient en arabe. Il est resté 3 ans en Algérie pour avoir son diplôme et finir dans les majors de la promotion. À partir de là, il a été admis à l'université de Rennes, à Beaulieu, avec un très bon dossier. L'université était une école d'ingénieurs en informatique. Il faut savoir que quand mon père est arrivé en France, il avait déjà son grand frère pour l'héberger. Cette fois, à Rennes, il n'était pas boursier, donc il fallait travailler pour payer les études. Mon père a fait différents métiers, comme livreur de prospectus, agent de sécurité et déménageur pour avoir un peu d'argent. Après ça, il a décidé de prendre un logement et de se débrouiller seul. L'université où il était a été très formatrice. Avec le temps, il a fondu une famille, créé son entreprise et travaillé dans des grosses sociétés comme Atos, Orange et PSA.
Bonjour, je m'appelle Joanne, je suis en 3e au collège Pierre-Olivier Malherbe et mon grand-père est né en Algérie. Mais je n'ai pas les détails de cette histoire parce que il y a eu beaucoup de non-dits dans ma famille et je ne sais pas pourquoi et comment il est arrivé en France.
Bonjour, je m'appelle Dylan, je suis en 3e au collège Pierre-Olivier Malherbe à Châteaubourg. Et j'ai interviewé ma mère pour savoir son intégration en France, comment ça s'est passé. Elle est originaire du Maroc.
Comment s'est passée son intégration en France ?
C'était facile pour elle, mais il y avait des choses qui la surprenaient encore.
Pourquoi est-elle venue en France ?
Elle est venue pour les études et aussi car la France est assez proche du Maroc.
Savait-elle parler la langue ?
Oui, elle savait déjà parler la langue, car le français est la 2e langue du Maroc.
En combien de temps s'est-elle fait des amis ?
Elle s'est fait des amis à peu près au bout d'un an.
Comment s'est passée sa première journée de travail en France ?
C'était très bien, mais c'était pas très dur.
Quelles sont les différences entre le mode de vie en France et le mode de vie au Maroc ?
Déjà, il y a le climat, il fait beaucoup plus chaud au Maroc et la culture, les liens sociaux et familiaux. Le Maroc est un pays animé, contrairement à la France, comme par exemple au Maroc, un dimanche soir à 23h, les rues sont encore remplies, alors que contrairement en France, elles seront vides.
Comment se sont passées ses études en France ?
Elles se sont très bien passées, elles étaient assez faciles. Les études en France sont à peu près équivalentes à celles du Maroc.
À quel âge est-elle venue en France ?
Elle est venue à 18 ans.
Bonjour, je m'appelle Issa, je suis en 3e au collège Pierre-Olivier Malherbe de Châteaubourg. Je suis d'origine sénégalaise et de nationalité française. Ma mère est sénégalaise et mon père français. Ma mère est venue en France au début des années 2000, issue de l'ethnie Peul. Mariam a toujours habité à Guédjiwaye, qui se situe à plus de 2 heures de Dakar. J'y suis allé 2 fois, en 2015 et en 2019. J'ai rencontré ma famille sénégalaise, c'est une grande famille, l'oncle de ma mère qui a quasiment mon âge. Je me souviens d'être allé à la plage avec lui, je me souviens que c'était festif. J'ai aimé le tchibouden, c'est un plat de base de poisson, de riz et de légumes. Ça m'a plu d'avoir 2 cultures et de la famille partout en France, en Belgique, partout en Europe et bien sûr au Sénégal.
Finalement, on est tous des enfants issus d'une migration, il suffit juste de s'en souvenir.
Venu, tu penses m'entendre dire sois le bienvenu, mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Je suis venu mais je le dis avec quel air, comme reçu à reculons. On peut pas dire mon cher Léon que ce soit sur un air d'accordéon.
Sans nuit, sans toucher, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Connu, jamais invité, cantonné, sans thune, sans dalle ou même sans papier.
Après les goûters avec les jeunes migrants du foyer de Châteaubourg, nous avons essayé d'avoir une correspondance épistolaire avec eux. Lorsque j'ai appris qu'il n'y avait que 2 lettres en réponse aux nôtres et que l'une d'entre elles m'était destinée, je l'ai prise comme une chance, un privilège. En ouvrant l'enveloppe, j'ai trouvé les quelques lignes, le grand effort de Ziola et l'immense image du drapeau afghan, preuve de la fierté de son pays. Les mots écrits en arabe m'ont plongé dans la lettre, ils ont créé une ambiance épaulée par le drapeau. Ziola m'a présenté sa fratrie qu'elle a malheureusement été contrainte d'abandonner. Celui-ci a arrêté l'école pour entrer directement dans le monde du travail afin d'envoyer de l'argent à sa famille. Cela m'a surpris, mais ça reste un choix très noble de sa part.
Bonjour, du coup, nous, c'est Lenny et Émilie. Du coup, on va poser quelques questions à Lomig. Pouvez-vous vous présenter ?
Alors, moi, je suis donc Lomig. Je suis auteur de bande dessinée depuis 10 ans. Donc, je vis sur Rennes et je travaille dans l'atelier Pépé Martini, qui est un atelier d'auteur de bande dessinée et autres sur... dans le quartier Maurepas. Ma dernière bande dessinée s'appelle Dans la forêt, donc c'est édité aux éditions Sarbacane en 2019. C'est une bande dessinée qui est l'adaptation en fait d'un roman et qui raconte en fait il y a eu un genre de une panne d'électricité en fait très importante aux États-Unis. Il y avait plus à manger dans les grandes surfaces, il y a plus de descendre de station service. Hein. Et on va donc tous les gens vivre reclus en fait chez eux en attendant que ça reparte en fait, hein, que l'électricité revienne. Bon, ça revient pas et on va suivre particulièrement en fait deux sœurs qui ont 17 et 18 ans et qui vivent dans une maison en plein milieu d'une grande forêt en Californie du Nord, quoi, en fait. Et donc on va voir comment leur rapport à la nature va évoluer, ben, pour tout simplement trouver des moyens de subsistance dans cette situation.
Pouvez-vous nous parler de votre travail ?
Alors, c'est pas une question facile, mon travail, mais je pense que j'essaie de raconter des histoires qui touchent des choses qui me sont importantes. Enfin, en tout cas, j'ai commencé par parler beaucoup du monde du travail. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'écologie, notre rapport à la nature qui m'intéresse vraiment. Et du coup, j'essaie de raconter des histoires pour créer de l'échange, partager en fait une sensibilité avec des lecteurs potentiels, quoi. Et c'est vraiment une passion pour moi, ce métier.
Et quel va être l'aboutissement du travail des 3e 3 avec vous ?
J'espère qu'on arrivera à avoir un petit fanzine, un petit collectif avec tout plein d'histoires différentes. Ouais, c'est plutôt bien parti. Là, il y a même quelqu'un qui travaille sur la couverture et tout. Donc, je pense que avoir un petit objet qui reste de tout ça, ça pourrait être vraiment super sympa, quoi. Donc, j'ai hâte de voir le résultat fini parce que je suis toutes les étapes et tout. Et avoir un petit livre à la fin serait vraiment cool.
Avez-vous des connaissances et des expériences sur la cause des migrants ?
C'est un sujet très, très sensible parce qu'on on peut plus ne pas se rendre compte en fait, de la problématique. On voit de plus en plus de migrants autour de nous, en fait, hein, sur Rennes. Voilà, cet été, en fait, on les voyait dans les camps, en fait, dans les parcs rennais. J'ai des enfants qui sont scolarisés en fait en école primaire, et donc on a vu aussi qu'il y avait des enfants qui étaient en fait complètement à la rue. Donc forcément, on était confrontés à ça. Hein. Et je suis intervenu plusieurs fois pour faire des ateliers auprès des migrants, pour un peu aussi des ateliers de dessin en fait. Hein. Donc voilà, plusieurs petites choses comme ça, quoi.
Que pensez-vous de participer à un projet avec des jeunes de notre âge ?
Ça c'est super, super intéressant de pouvoir un peu partager un temps avec vous pour vous initier à la bande dessinée. Donc, c'est toujours un moment de partage très agréable pour moi en fait. Et sur en plus une thématique comme ça, c'est d'autant plus intéressant.
Et vous trouvez pas ça trop long de travailler avec nous ?
Non, ça va. Non, franchement, je pense qu'il fallait bien ça. Parce que vous voyez, même là, c'est la dernière séance et tous les projets ne sont pas encore aboutis. Hein, parce que voilà, il y a beaucoup de temps de dessin. Vous vous rendez compte, il y a eu d'abord le travail d'écriture, après il y a eu le storyboard, les crayonnés, tout ça. Donc ça prend, il fallait vraiment ces quatre sessions pour arriver à un résultat final. Et non, jusqu'au bout, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'évolution de vos histoires. C'est une super expérience pour moi aussi, quoi. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, quoi.
Oui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je me présente, je m'appelle Ethan Néon et je suis en classe de 3e 3 au collège Pierre-Olivier Malherbe.
Et moi, c'est Lucas Simon, 3e 3, au collège Pierre-Olivier Malherbe également.
En classe de français, on avait un travail à faire avec un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Lomig. On devait créer des bandes dessinées sur un thème qui aborde sur les migrants. Donc nous, on a représenté deux migrants qui viennent de Syrie et qui veulent échapper à la guerre parce que à 17 ans, ils sont enrôlés dans l'armée de Syrienne et eux, ils veulent pas. Du coup, ils vont voir un passeur, ils demandent à sortir de la Syrie et c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent une fille. Et donc après, ils vont faire tout le voyage jusqu'à Marseille.
Ces garçons vont payer avec le si peu d'argent qu'il leur restait, vont payer le voyage en plus à cette fille pour qu'elle passe aussi. Donc ils mettent leur vie aussi de côté pour cette jeune fille. Et moi, mon avis sur ce travail, c'est que je trouve que c'est un travail très enrichissant, car ça nous permet d'apprendre à vivre ce que les migrants ressentent, nous mettre à leur place pour voir à quel point c'est dur la traversée de tel pays à tel pays.
Pareil, moi je trouve que c'est un bon travail, j'aime bien faire ça. Bah ouais, c'est enrichissant, ça nous fait apprendre par exemple les causes des migrations.
Et dans votre histoire, le storyboard que vous avez imaginé, sur lequel vous êtes en train de travailler avec l'OMIG, vous avez les passeurs qui prennent une place importante dans votre histoire?
On a voulu identifier le passeur comme une personne qui pense vraiment qu'à faire de l'argent, qui sait de l'argent sur les plus faibles. Mais oui, notre passeur a un rôle essentiel dans les trois premières pages, on va dire.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci de rien.
Bonjour, je suis Samuel, élève de 3ème 3.
Bonjour, moi c'est Maë.
Bonjour, moi c'est Jade.
Donc on a réalisé des storyboards et après dessiné. Et moi c'est un peu tout ce que j'ai fait dans ce projet.
Et juste avant aussi, ils sont allés rencontrer les migrants.
Dans le foyer à Châteaubourg.
Voilà. Personnellement, moi j'ai lu « Migrants ».
Moi, c'était Frères d'exil, c'était sur une migration du Nil passée à cause des dégâts naturels. Donc, elle était sur le point de s'effondrer avec la recouverte de la mer. Enfin, elle était recouverte par la mer et donc ils ont dû fuir par bateau.
Et moi, c'était l'Odyssée d'Hakim. Il a dû fuir la Syrie à cause de la guerre. Moi, j'ai choisi de présenter ce projet à l'oral du DNB. J'ai choisi ce projet parce que je trouve que c'est un projet enrichissant qui m'a permis de m'ouvrir au monde et de comprendre aussi les enjeux actuels de l'immigration.
Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce projet ?
Pour moi, c'était la rencontre avec l'OMIG. Ça nous a permis de vraiment savoir de A à Z de la construction d'une bande dessinée. Donc j'ai trouvé ça très... très instructif la rencontre.
Pareil par rapport à l'OMIG, de savoir comment on crée une BD, voilà. Et aussi de savoir comment ils vivent, les migrants, comment ça se passe.
Moi aussi, la BD, la création de la BD, j'ai trouvé ça très intéressant.
On remercie également tous les enseignants qui nous ont permis de réaliser ce projet très, très constructif et qui nous a beaucoup appris. Un grand merci à tous les enseignants et encadrants.
Madame Carré et Madame Tourmap.
Moi, je m'appelle Dylan.
Moi, NJ.
Moi, Ethan. Moi, Axel.
Pour mon cas, je n'avais jamais vraiment parlé des immigrés auparavant, mais depuis cette année, j'ai étudié ce sujet. J'ai appris énormément de choses, comme par exemple qu'il y avait un foyer à Châteaubourg.
J'ai trouvé le projet de rencontrer de jeunes migrants et d'en faire une BD et un podcast intéressant. Les œuvres littéraires et cinématographiques qu'on a étudiées, ainsi que les dessins des mineurs isolés, m'ont fait remarquer qu'ils ont les mêmes goûts que nous, musique, nourriture, sport.
J'ai trouvé le projet de rencontrer des jeunes migrants et d'en faire une BD très intéressant. Les œuvres littéraires et cinématographiques étudiées sont captivantes. Leurs dessins m'ont fait remarquer qu'ils aimaient les mêmes choses que nous, comme la musique et la nourriture.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave. Comme les braves, même la mort n'est plus en trave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit, ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.